Le 2 août 1961.
Quand on descend dans le subconscient, il y a un moment où ce n'est plus le subconscient personnel, n'est-ce pas? C'est tout le monde qui est là. Alors comment est-ce qu'on peut changer? Je ne parle pas de toi, mais de gens comme nous, par exemple, qui... Comment est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Puisque c'est un tonneau des Danaïdes, à chaque instant ça rentre. Des vibrations du monde entier. Alors comment est-ce qu'on peut changer ça?
Mais en même temps, il faut prendre la chose de l'autre façon. L'évolution commence par l'inconscient, l'inconscient complet. Alors de cet inconscient, petit à petit émerge un subconscient, c'est-à-dire une demi-conscience ou un quart de conscience. Il y a deux choses différentes. Il y a le... N'est-ce pas, nous prenons la vie de la Terre, parce que dans l'univers, le procédé est un petit peu différent. Mais pour la vie de la Terre, n'est-ce pas, ça commence par un inconscient total. Et de là, ce qui était involué dedans, petit à petit, travaille et change cet inconscient en semi-conscient ou un subconscient. Et en même temps, il y a un travail individuel qui éveille l'inconscient individuel à une semi-conscience individuelle. Mais ça, naturellement, c'est là-dessus que l'individu a le contrôle. Mais en fait, ce n'est pas individualisé, parce que l'individualisation commence avec la conscience. Par exemple, mais le subconscient des plantes ou le subconscient des animaux, c'est une chose qui n'est pas individualisée. Et on pourrait appeler le comportement d'un animal ne provient pas d'une individualisation, mais du génie de l'espèce, n'est-ce pas? Alors, le subconscient individuel est déjà une chose qui a évolué du subconscient général. Mais quand on descend comme pour faire un travail de transformation, par exemple pour amener la lumière dans les différentes couches de vie, eh bien on descend dans un subconscient universel, pas universel, n'est-ce pas, je vais le parler, cosmique, terrestre, un subconscient terrestre. Ce n'est pas un subconscient individuel, et le travail se fait dans l'ensemble. Ça ne se fait pas par une individualisation, ça se fait par le mouvement contraire, par une sorte d'universalisation.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'automatiquement, quand on progresse, on s'universalise, n'est-ce pas?
Oui.
Alors on nous dit qu'il faut changer ce subconscient, y amener de la lumière.
Oui.
Mais comme c'est quelque chose qui est universel, ça n'a pas de fin. Parce qu'à chaque instant, ce sont des choses qui viennent du...
Mais non,
qui viennent du dehors, d'ici, de là,
Non.
C'est sans fin. Comment est-ce qu'on peut changer ça?
Non, ce n'est pas sans fin, parce que ça... ça a les limites de l'atmosphère terrestre.
Oui, pas mal de...
Ben oui, mais alors c'est pas sans fin.
Mais alors comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? Comment est-ce qu'on peut... Toutes ces vibrations qui rentrent, toutes ces choses du monde, de la Terre. Comment est-ce qu'on...
Mais la minute où tu t'individualises, où tu t'universalises, tu agis sur le tout. Mais même ce que le Bouddha disait ici, si vous avez une vibration de désir, cette vibration fait le tour de l'atmosphère terrestre. C'est le contraire qui est impossible. C'est de se séparer. On se sépare en idée, mais on ne peut pas se séparer en fait. C'est-à-dire que si tu essayes de supprimer le subconscient en toi, il faut que ton mouvement soit général. Il ne peut pas être personnel. Tu n'arriverais jamais.
Oui. Bien sûr, mais alors comment? Ce sont des vibrations qui se recréent sans cesse.
Non, elles ne se recréent pas. Non, elles ne se recréent pas.
À chaque instant, il y a des gens qui ont de mauvais mouvements. Ben
ça reste dans... Ça fait comme ça. Dans l'atmosphère de la Terre. Mais l'atmosphère de la Terre, à point de vue universel, c'est une chose très petite, n'est-ce pas? Eh bien, là-dedans, ça tourne en rond. Et au contraire, à cause du mouvement d'évolution, ça progresse. C'est-à-dire que l'inconscient de maintenant n'est pas aussi inconscient que l'inconscient du commencement. Et le subconscient de maintenant n'est pas aussi subconscient et aussi généralisé qu'au commencement. C'est ça qui représente l'évolution terrestre.
Oui, mais justement, tu disais, ça tourne comme ça.
Ah.
Mais ça veut dire que justement, ça se recrée sans cesse.
Mais ça ne se recrée pas. Ça tourne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Recréer, ça voudrait dire que des autres sphères ou du suprême, un nouveau contingent d'inconscient et de subconscient viendrait. Nous prenons ça comme un accident. C'est arrivé. Ça ne fait pas partie d'une création infinie et éternelle.
Mais alors, nos vibrations de conscience ont un effet pour changer ces vibrations générales.
Nous sommes les premiers instruments possibles pour commencer à faire progresser. Par exemple, c'est une façon de dire, mais il est probable que la transformation de l'inconscient en subconscient est beaucoup plus rapide et beaucoup plus complète qu'avant l'arrivée de l'homme sur la Terre. L'homme est un des premiers éléments de transformation. Évidemment, les animaux sont plus conscients que les plantes, c'est évident. Mais enfin, le progrès voulu est par conséquent beaucoup plus rapide, ça appartient à l'humanité. De même que, selon ce que what one expects, n'est-ce pas? Ce que l'on espère, plus qu'espère, quand la nouvelle race supramentale sera sur la Terre, le travail ira beaucoup plus vite. Et alors forcément, l'homme en profite. Et comme ça se fera dans l'ordre, au lieu de se faire dans le désordre mental, il est probable aussi que les animaux en profiteront et que tout en profite. C'est-à-dire la Terre tout entière comme une entité, n'est-ce pas? Son progrès sera de plus en plus rapide. Et l'inconscient est... tout ça, ça me vient en anglais. C'est ça la difficulté, c'est pour ça que je... is meant to go, n'est-ce pas? Il est entendu que l'inconscient disparaîtra. Et forcément, le subconscient disparaîtra.
C'est-à-dire que, grossièrement, ça veut dire que la matière physique deviendra consciente. Quand tu dis que l'inconscient disparaîtra.
Oui, d'une certaine façon. D'une certaine façon. Réceptive, hein? Répondra, le mode de vie ne changera pas nécessairement, mais la forme de vie change. Et ça se dit en français responsif.
Réceptif ou non?
Non, réceptif est une chose, responsif est une autre.
Oui.
C'est-à-dire répondre. Il répondra à la volonté consciente. C'est bien pour ça. Autrement, comment est-ce qu'il pourrait y avoir une transformation? Les choses resteraient toujours comme elles sont. Comment, dans quel genre de terre pourrait vivre la race supramentale s'il n'y avait pas réponse de la matière? Si elle ne commençait pas à vibrer et à répondre à la volonté, on serait toujours les mêmes difficultés. Et ce n'est pas limité, même si on conçoit le pouvoir sur le corps de façon à ce que la vie corporelle soit différente, mais pour que cette vie corporelle puisse exister dans un entourage, elle ne peut pas être suspendue comme ça. Il faut que l'entourage réponde. Et ça, c'est tout évident que l'inconscient et le subconscient et le semi-conscient, tout ça, c'est accidentel. Par conséquent, ça ne fait pas une partie définitivement de la création. C'est appelé à disparaître, à se transformer. Mais moi-même, il y a des années, quand avec Shiobindo nous avons passé de plan en plan, de mode de vie en mode de vie, et qu'on est arrivé au subconscient, s'est aperçu que c'était plus un niveau. C'était terrible. Le reste, le mental et tout ça, le vital, corporel, naturellement, c'est individualisé. Et puis de là, quand on descend en dessous, c'est fini. Il y a bien quelque chose entre la vie consciente du corps et cette vie subconsciente terrestre. Il y a donc des éléments qui sortent et qui sont le résultat de l'action de la conscience individuelle sur la substance subconsciente. Ça fait une sorte de semi-conscient. Et ça reste. C'est quand on dit aux gens, vous avez repoussé votre difficulté dans le subconscient, elle remontera de là. Ce n'est pas le subconscient général, c'est quelque chose qui du subconscient qui s'est individualisé sous l'action de la conscience. Et ça reste là, comme ça, et puis ça revient. C'est pour ainsi dire interminable. Même la partie personnelle. Je continue toutes les nuits à avoir des choses, tu sais, de plus en plus ahurissantes qui sortent du subconscient comme ça pour se faire entendre. Et alors ça, c'est une sorte de mélange, ce n'est pas clairement individualisé, c'est une sorte de mélange de tout ce qui était proche, plus ou moins proche dans la vie. Alors, et là, par exemple, il y a des gens qui sont mélangés. Encore il y a 2 jours ou 3 jours, j'ai eu, n'est-ce pas, on revit les choses. Comme les gens qui ont des rêves, ce ne sont pas des rêves, n'est-ce pas, mais on revit ça. Et alors, dans un certain cadre, un certain ensemble de circonstances, symboliques ou expressives en tout cas. Et alors là, encore il y a 2 jours, j'ai eu affaire à quelqu'un, n'est-ce pas, j'avais quelque chose à faire avec quelqu'un, parce que j'y travaille activement. Et cette personne, je me disais, mais est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-là? Et alors quand j'ai commencé à regarder avec une conscience plus... de plus la conscience d'un témoin, que j'ai témoin dans l'action, je me suis aperçu que c'était tout simplement un mélange des deux. Et que dans le subconscient, tout ça, c'est mélangé. Déjà au Japon, il y avait 4 personnes que je ne pouvais jamais distinguer dans mes activités de la nuit. Toutes les 4 étaient toujours mélangées. Et Dieu sait qu'ils ne se connaissaient même pas. Parce que leur réaction subconsciente était similaire, était identique. Au fond, c'est ça la légitimation de l'ego. C'est parce que si nous n'avions pas eu un ego et formé un ego, tous en auraient vécu comme ça. Tout est mélangé comme ça. Tantôt là, oh, quand on voit ça. Oh, c'était si drôle, l'autre. C'était si amusant. Et alors, sur le moment, n'est-ce pas, c'était un peu ahurissant. Et puis, alors, quand j'ai bien regardé, c'était tout à fait amusant. 2 petites personnes, et physiquement, elles ne se ressemblent pas. Mais elles sont d'un type similaire. C'est-à-dire petites, et puis, enfin, il y a une similitude. C'est comme mes 4 hommes du Japon, c'était pas des Japonais, il y avait un Anglais, un Français, un Japonais, et puis encore un, je ne sais plus, c'était chacun d'un pays différent. Et la nuit, tous les mêmes. Et tous les mêmes comme si on voyait l'un à travers l'autre, comme ça, c'est pas mal. C'est très amusant. Au fond, on ne s'individualise que lentement et difficilement. Et ça, c'est pour ça qu'on a un ego, autrement, on ne serait jamais, individualisé. C'est genre une sorte de place. C'est au fond cette individualisation et par conséquent cette nécessité de l'ego, c'est pour que le retour à la conscience divine soit un retour conscient. Et vous, avec la pleine participation consciente.
À ce propos-là, il y a une question que je me suis posée. Quand on parle de l'être central, par exemple, n'est-ce pas, l'être central, c'est quelque chose qui n'est pas dans la vie physique, qui est au-dessus, n'est-ce pas?
C'est dedans et au-dessus, partout.
Est-ce que c'est quelque chose...
Non, à moins que tu n'apprennes à penser avec la 4e dimension tout le temps, oui. Tu ne comprendras jamais rien.
Oui, je comprends. Non, enfin, je veux dire, c'est, comme dit Schwabino, c'est unborn. C'est ça qui... Schwabino dit c'est unborn.
Grand.
Unborn.
Une borne.
Non, une borne.
Une borne.
Une borne. Mais est-ce que je veux savoir, est-ce que c'est quelque chose d'individuel? On a chacun un être central ou bien
c'est... Pas séparé de l'autre.
Pas séparé de l'autre, comment? Il n'est pas séparé du divin, il est un avec le divin.
Oui.
Mais est-ce que c'est, on a chacun un être central individuel, particulier, ou bien est-ce que c'est l'être central de tout le monde?
Il devient personnel dans notre conscience. C'est un phénomène de conscience. Ça, il n'est pas séparé. Jamais séparé.
Non, il n'est pas séparé.
Il n'est jamais séparé.
Mais est-ce qu'il a une individualité?
Ni du centre, si on peut appeler ça centre, ni de l'ensemble. Et dès qu'on est en rapport avec lui, il y a ça. Le problème ne se pose plus. C'est de toute évidence. C'est de toute évidence. Ça ne peut pas être autrement.
Parce que si, quand on perd l'ego et qu'on trouve cet être central,
oui.
Shlomindo dit qu'il reste une individualité, c'est pas une dissolution. On a
une personnalité.
C'est ça. C'est donc, cette personnalité, c'est celle de l'être central. C'est la personnalité vraie, la personnalité
oui.
de l'être central.
Oui.
C'est donc quelque chose qui est quand même individuel, c'est pas quelque chose qui est un moi impersonnel.
C'est individuel dans l'action, dans la manifestation. Et alors, c'est là le problème. Jérôme nous dit que ça, c'est permanent, n'est-ce pas? Tandis que toutes les autres, les anciennes traditions disent que ça disparaît avec la disparition du corps.
C'est un moi individuel permanent.
Autrement, il ne pourrait pas y avoir de vie matérielle permanente. Parce que c'est le caractère même de la matérialisation. Et si ça c'était appelé à disparaître, alors pas légitimation, le phénomène de dissolution physique deviendrait un phénomène permanent. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais d'immortalité matérielle. Parce qu'après avoir épuisé une certaine somme d'illusion ou de désordre ou de mensonge, on retournerait à la vérité. Tandis que, selon lui, c'est pas comme ça, là. C'est la vérité, cette individualisation, cette personnalisation individuelle est un phénomène divin réel, véritable. C'est seulement la déformation de la conscience qui est un mensonge. Mais, c'est-à-dire, en retrouvant la conscience vraie de l'unité, l'unité à la fois dans le manifesté, dans le non-manifesté, et supérieure au manifesté et au non-manifesté, c'est-à-dire supérieur contenant en soi-même également le manifesté et le non-manifesté, eh bien, cette vérité-là inclut la personnalisation matérielle. Autrement, ça ne pourrait pas exister.
Et chacun a une personnalité différente.
Oui.
Personnalité.
Peut-être pas chacun dans le désordre actuel.
Oui. Enfin, chaque être...
En principe.
Oui, chaque être conscient.
Oui, en principe. Chaque âme vraie.
Vrai, c'est-à-dire formé.
Oui, ça c'est le résultat de commencer par en bas. Mais si tu prends par en fond...
Chacun représente quelque chose du divin.
On peut dire comme ça. Mais ça, c'est encore séparatif.
Parce que qu'est-ce que c'est que cette personnalité?
Oui, c'est un mode d'être.
Ce qui fait que chacun est différent de l'autre.
Un mode d'être.
Un mode d'être.
Ou d'une certaine manière. Dans son essence. Dans son essence, parce que si c'était dans la manifestation, tout ça s'est appelé à disparaître. C'est dans son essence qu'il y a. Oui, ce sont des modes d'être. Comme lorsque, à la première manifestation, n'est-ce pas, quand il y a eu ces quatre modes d'être qui ont été les premiers créés.
Mais enfin, là, il y aurait d'innombrables modes d'être.
Oui.
Chacun représentant un mode
oui,
d'être.
Oui. Une multitude. Autrement, il ne peut pas y avoir de jeu. Pas de jeu comme ça, il ne peut pas. Parce que j'ai vu que dans ce qu'il dit, c'est que c'est. Il a mis la. Je viens de le traduire. La jouissance et la possession. De l'un avec la multitude, de la multitude avec l'un, et de la multitude avec la multitude. Par conséquent, s'il y a un jeu comme ça, ça doit être une diversité innombrable.
Alors, comment se fait-il que tous ceux qui ont eu des réalisations passées, qui ont trouvé le moi véritable, comment se fait-il qu'ils ont tous c'était la dissolution qui reste de l'individu,
pas tout.
Qui restait pas de personnalité.
Pas tout. Tous ceux qui ont su, qui sont allés dans la non-existence. Mais Il est évident, par le contenu des Védas, par exemple, que leurs ancêtres, dont ils se souvenaient, étaient des gens qui avaient réalisé l'immortalité sur la Terre et qui... Ils existent peut-être encore, parce qu'on ne sait pas où. Et ils avaient cette conception-là. L'autre tradition, celle qui. L'autre ligne, celle par exemple, dont. Théon disait qu'il était à l'origine de la Kabbale, et qui disait qu'il était à l'origine des deux, de la Kabbale et des Védas. Eh bien, celle-là avait la conception de la même que celle que Shiobindo a donnée, c'est-à-dire la conception de la vie divine, d'un monde divin. Que le sommet de l'évolution serait une divinisation de tout ce qui est objectivé, avec, à partir de ce moment-là, une progression sans recul. Parce que maintenant, on fait comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, n'est-ce pas? Et alors que ce mouvement de recul ne sera plus nécessaire, que ce sera une insortie. Ils avaient cette conception-là. Parce que Scioppino n'avait rien écrit encore au moment où j'ai rencontré Théon, et Théon m'en a parlé très clairement. Et lui, il avait écrit toutes sortes de choses, mais pas, n'est-ce pas? Pas philosophique. Et c'était tout des histoires. Et alors, c'était fantastique, n'est-ce pas? Mais il y avait derrière une connaissance qui était celle-là, qui était la même. Et quand on lui demandait d'où il l'avait, il disait que c'était antérieur à la Kabbale et antérieur au Veda. Il connaissait bien le Rig Veda. Il n'avait pas du tout la voie de Bhakti, pas du tout. L'idée de se rendre au divin, ça lui était absolument étranger. Mais il avait l'idée de la présence divine ici, du divin immanent, et de l'union avec ça. Et il se disait que c'était par l'union avec ça, et en laissant ça transformer l'être, on arriverait à cette création divine, avec la transformation de la terre. Et pour lui, c'était lui qui avait, n'est-ce pas, qui premier m'a donné cette idée de la terre symbolique, représentative et symbolique de l'action universelle concentrée pour permettre aux forces divines de s'incarner et de travailler concrètement. Tout ça, c'était ses idées.
Quelque part, à propos, tu dis que les dieux aussi doivent s'incarner pour devenir complètement conscients.
Oui, parce que...
Mais comment est-ce possible? Ils ne sont pas complètement conscients, les dieux?
Non. Ils n'ont pas d'être psychique. Alors, tout ce côté-là de la vie n'existe pas pour eux. Toutes ces traditions qu'il y a ici, et dans d'autres pays aussi, dans d'autres religions aussi, où ces dieux sont des êtres impossibles, la plupart du temps. Tout à fait. Mais c'est parce que les dieux n'ont pas d'être psychique. L'être psychique est une chose qui appartient à la vie terrestre. Qui a été une grâce pour réparer ce qui, défaire ce qui avait été fait.
Oui, mais ils sont conscients du divin. Les dieux sont conscients du divin, évidemment.
Écoute, mon petit, ils sont conscients de leur divinité. Sur tout ça. Mais branchés, oui. Mais non, ils n'ont pas la conception de... Les dieux n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que le Sorende. J'en ai l'expérience. J'ai eu une expérience très intéressante. Est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant? Je ne sais pas. Mais ça t'a pris et fomenté. Tu sais, au moment des pujas, ces déesses viennent comme ça. N'est-ce pas? Elle n'entre pas d'une façon en se liant, mais elles viennent pour se manifester. Et cette fois-là, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou la fois d'avant, mais c'est bien possible que ce soit l'année dernière, pas plus tard, pas plus tôt que ça. Il y avait Durga vient toujours quelques jours d'avant. Et là, ils sont en atmosphère, comme ça. Et alors, cette fois-là, pendant mes méditations là-haut, j'avais un rapport avec elle, avec le nouveau pouvoir qui était en moi, dans ce corps, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on peut dire ça? Je la faisais participer à cette conception du sirène, n'est-ce pas? Elle a eu une expérience extraordinaire de la joie de se brancher. Et elle a déclaré à partir de ce moment que je suis un Bhakta du Seigneur. Mais c'était beau, n'est-ce pas? C'est une puissance formidable, mais c'est une puissance universelle, éternelle, n'est-ce pas? Formidable. Eh bien, cette expérience, elle l'avait jamais eue, elle avait une expérience sans pouvoir. Mais c'était pas. Elle recevait les ordres, elle obéissait aux ordres, mais comme ça, automatiquement. Mais tout d'un coup, n'est-ce pas, elle a senti l'extase d'être l'instrument conscient. Et c'était vraiment beau. Et je me suis aperçu, alors je le savais. Parce que je me souviens du temps où quand je faisais mes méditations, quand Sri Aurobindo était là, et que je descendais sur l'escalier pour donner la méditation aux gens qui étaient dans le hall. Tu sais, il y a une plainte à un certain endroit là, au-dessus des colonnes. Tous les dieux étaient assis. Shiva, Krishna, l'être morti, tous des petits, des grands, c'était très joli. Et régulièrement, ils venaient tous les jours, et ils étaient là. Et ils assistaient à la méditation. Mais, ce n'était pas le. L'adoration du suprême. Il n'avait aucun besoin de cette conception. Il avait plein de sentiments, n'est-ce pas, d'une divinité éternelle. Chacun avec son mode spécial. Et il sentait bien puisque chacun savait qu'il pouvait représenter tous les autres. Et que l'adoration populaire était comme ça. Et il savait. Et alors, il se sentait une sorte de communauté. Mais il n'y avait aucun de ces choses que donne la vie psychique. De l'amour profond, de la sympathie profonde, du sens d'union. C'était pas ça, c'était pas fait. Ils avaient aussi des mouvements très, très, très particuliers, n'est-ce pas? Mais pas cette espèce d'adoration du suprême et du sentiment qu'ils étaient. Ils représentaient le suprême, chacun représentait le suprême, par contre, pleinement satisfait de sa représentation. Il n'y avait que Krishna parce que En 26, j'avais commencé une sorte de création de l'overmind. C'est-à-dire que j'avais fait descendre l'overmind dans la matière, sur la terre, et puis j'ai commencé à préparer tout ça. Il y avait des commencements de miracles, toutes sortes de choses. Et alors, ces dieux, Je leur demandais de s'incarner, de s'identifier à un corps. Il y en avait qui refusaient absolument. Mais, j'ai vu de mes yeux le Krishna qui était toujours en rapport avec Sri Aurobindo, consentir à venir dans son corps. C'était un 24 novembre. C'était pas ça, lui, pourquoi? Ça a été le début du manuel. Il l'a écrit dans son.
Oui, justement, je voulais te demander qu'est-ce que c'est que cette réalisation de 1926, cette réalisation de.
26, c'est ça. C'est Krishna qui a consenti à descendre dans le corps du corps. Fixé, là. Tu comprends? Il y a une grande différence. entre s'incarner, fixer, pouvait agir comme une influence qui vient et va, qui bouge, qui vient. Ils ont toujours ça. Tout de nous-mêmes, dans notre être intérieur, nous allons, nous allons, sans dire cela, ça en même temps, n'est-ce pas? C'est évident. Mais il y a une différence entre accepter d'être lié d'une façon permanente au corps ou simplement devenir comme au corps. Il y a une différence entre être une influence permanente et une présence permanente. Ça, ces choses-là, ce sont des choses dont on a l'expérience.
Non, je sais. Mais ça marquait un tournant dans la sadhana de Sri Aurobindo. En quel sens?
C'était un phénomène important pour la création, n'est-ce pas? Et lui, ça lui était assez indifférent. Seulement, je lui ai dit. Et alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de ne plus avoir affaire avec les gens, se retirer. C'est pour ça qu'il a rappelé tous les gens. Il a eu une dernière réunion, parce qu'il sortait, n'est-ce pas, tous les jours, il voyait tout le monde, il venait le voir. Ils causaient ensemble, c'est ça l'origine de ces fameuses talks et tout ça. Enfin. Et bien, n'est-ce pas, ils voyaient, ils recevaient des gens, ils étaient là. Moi, je ne voyais personne. Je vivais dans les chambres intérieures, lui sortait sur la véranda et voyait tout le monde, recevait les gens, parler, n'est-ce pas, etc., discuter. Et puis c'était seulement quand il rentrait que je le voyais. Mais alors, quand ça, c'était... Moi, j'avais, après un certain temps, j'ai eu moi aussi des méditations avec les gens, et... j'avais commencé cette sorte de création, n'est-ce pas, de faire descendre chacun dans un... Et puis, alors ça, il y avait une courbe ascendante extraordinaire. Et j'étais en relation avec tous ces êtres, et j'ai demandé à Krishna, parce que je le voyais toujours là, autour de Sri Aurobindo. Je lui dis, ça c'est très gentil, mais maintenant, moi, je veux ma création sur la terre, tu t'incarnes. Il a dit oui. Et je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux, comme ça. Vraiment, des yeux intérieurs. Qui se liaient à Sri Aurobindo. Alors, je suis entré dans la chambre de Sri Aurobindo et je lui ai dit, ben voilà ce que j'ai vu. Alors, il m'a dit, yes, I know. Et alors, il a dit, c'est bien, je prends la décision de me retirer. Et c'est vous qui prenez la charge des gens. Il y en avait à peu près une trentaine. C'est vous qui prenez la charge des gens. Et alors, il a appelé tout le monde, il a eu une dernière réunion, il s'est assis, ma fille assise à asseoir à côté de lui, et il a dit aux gens, je vous ai appelé pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je me retire et pour ma sadhana et ses mères qui prendront la charge de tout le monde. C'est à elle que vous devez vous adresser, c'est elle qui me représentera, c'est elle qui fera tout le travail. Il ne me l'avait pas dit. C'était tous des gens très intimes, n'est-ce pas, qui avaient toujours été très intimes avec lui. Et qui ont demandé, mais pourquoi? Et alors, il a répondu, bien, on vous expliquera. Et moi, je n'avais aucune intention d'expliquer rien du tout. Et je me suis retirée avec lui. Et c'est Datin que tu n'as pas connu. Une Anglaise qui était partie d'Europe avec moi, qui est arrivée ici, qui est restée ici jusqu'à sa mort, qui avait des inspirations comme ça. Et alors, quand moi je me suis retirée avec elle, elle a commencé à parler, elle a dit qu'elle sentait que j'avais envie de parler en elle, elle a commencé à parler, à tout expliquer. Que c'était Krishna qui s'était incarné et qu'à partir de ce moment, il allait faire une sadhana intensive pour la descente du supramental, que c'était comme une adhésion de Krishna à la descente du supramental sur la terre, et que comme il serait occupé, qu'il ne pouvait pas s'occuper des gens, il m'avait donné la charge et c'était moi qui ferais tout ça. Voilà. Ça s'est passé en 26. C'était seulement, comment dire, une participation. Mais pour lui, personnellement, ça ne faisait aucune différence. C'était une formation du passé qui acceptait de participer à la création présente. N'est-ce pas, c'était une descente du suprême d'il y a quelque temps qui consentait à participer à la nouvelle manifestation. Tandis que Shiva a refusé. Shiva a dit non. Quand tu auras fini ton travail, je viendrai. Pas dans un monde tel qu'il est comme ça. Je veux bien aider. C'est là que, ce jour-là, n'est-ce pas, qu'il se tenait dans la chambre, et puis il était si grand que sa tête touchait au plafond, avec sa lumière particulière, n'est-ce pas, qui est un jeu d'or et de rouge. Formidable, un être formidable. Et alors moi, je m'étais levée, et puis je lui avais dit, et puis... C'était quand il manifestait sa conscience suprême. Et alors, je me suis tenue debout et probablement je devais être devenue très grande aussi parce que j'avais ma tête sur son épaule. Juste au-dessous de sa tête, à lui, sa tête là. Alors ça veut dire que je devais être assez grande aussi. Mais c'était... Et alors c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Non, je ne me lierai pas encore, mais tout ce que tu veux de moi, je te le donne. » Et tu sais, pas comme des mots comme ça. Alors la seule chose que je lui ai dite, je ne veux plus d'ego physique. Et monté. C'est arrivé. Mais alors, c'était si extraordinaire. Au bout d'un moment, je suis allé trouver sur Vino, puis je lui ai dit voilà ce qui est arrivé. Et j'ai une drôle de sensation que ce n'est plus un aggloméré.
Ce n'est plus?
Les cellules ne sont plus agglomérées.
Ah, j'ai agglomérée.
Ça va bien. Alors il m'a regardé, il a souri, il a dit pas encore là, tiens. Et puis alors cet effet-là a disparu. Mais l'autre m'avait bien donné ce que je voulais. Non, tiens. Non, c'était pas vrai, c'était pas trop. J'ai eu ça. bien de nous. Il y a autre chose. Les choses sont différentes.